au chapitre 8. Alors avant de lire le passage, on va aller ensemble dans un mot de prière. Père éternel, je veux te rendre grâce de nous accueillir dans ta présence, Seigneur. Je veux t'adorer, bon Père, parce que tu es présent au milieu de nous, par ton Esprit Saint. Je crois, Seigneur, que tu es là parmi nous, et que tu veux faire une œuvre dans nos cœurs ce matin, par ton Esprit, comme nous l'avons chanté, Seigneur. Père, nous nous approchons de ta parole, parce que ta parole est la vérité, parce que c'est par ta parole que tu parles, que tu nous parles personnellement. Je te prie ce matin de venir appliquer, Seigneur, ce passage dans nos vies, chacun d'entre nous. Je prie, Père, de venir l'appliquer dans la vie de personnes peut-être qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus, et qui sont comme ces Samaritains qui ont besoin d'entendre l'Évangile, d'entendre la bonne nouvelle, d'entendre parler du Christ. Viens parler à leur cœur ce matin, Seigneur Jésus, car tu es digne de recevoir toute l'adoration et tu es, Seigneur, la vie. Viens, Seigneur, te donner à eux, leur donner la vie ce matin s'ils ne te connaissent pas. Je te prie, Père, pour chacun d'entre nous qui te connaissons personnellement, qui avons connu qu'en toi, Jésus, se trouve la vie éternelle. Viens parler à nos cœurs ce matin, Seigneur. Nous voulons, nous désirons avoir un cœur qui bat au rythme de ton cœur, un cœur qui est passionné, Seigneur, pour ce qui te passionne, un cœur qui est rempli de compassion là où ta compassion se trouve, Seigneur. Alors parle-nous ce matin par la vie de cet homme, Philippe, par l'œuvre que tu as fait à travers lui, Seigneur. Viens nous conduire, Seigneur, comme Église, à entrer dans ton œuvre. Viens nous remplir, Esprit Saint de Dieu, afin que nous entrions dans cette œuvre merveilleuse à laquelle tu nous appelles. Je prie de nous bénir ensemble ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin que tu te manifestes dans nos cœurs ce matin. C'est en Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Dans Actes chapitre 8, les versets 1 à 25, je vais faire la lecture de la parole de Dieu. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la Grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villes des Samaritains. On arrive dans un passage où on voit que l'Évangile va se répandre et va se répandre à travers tous les enfants de Dieu. C'est un point tournant, je l'ai mentionné depuis plusieurs semaines avec le martyr d'Étienne. C'est un point tournant pour passer à la phase 2 et 3 du projet d'évangélisation du Saint-Esprit. Ce qui est fascinant de remarquer dans le passage, juste avant de rentrer vraiment dans notre texte de ce matin, c'est, regardez le verset 4 par exemple, il est mentionné ici, « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Maintenant, regardez avec moi le verset 25. Au verset 25, il est écrit dans la deuxième partie, « Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villes des Samaritains. » C'est exactement la même expression qui est utilisée dans le grec pour les apôtres, qui a été utilisée pour tous les disciples dispersés. Voyez-vous, jusqu'à présent, dans le livre des Actes, qui prêchait? Qui annonçait l'Évangile? Qui annonçait Jésus-Christ? Pour autant qu'on peut voir dans ce que Luc nous raconte, mais ce sont les apôtres. Étienne, Philippe, ce sont des gens qui sont en leadership dans l'Église. Mais lorsqu'on arrive à ce moment tournant ici, exactement la même expression est utilisée pour tous les disciples qui sont dispersés à cause de la persécution que pour les apôtres eux-mêmes. Puis en fait, si on est attentif à ce qui se passe dans le passage, on peut même observer qu'à partir de ce moment-ci, dans ce passage-là, ce ne sont pas les apôtres qui ouvrent la voie, mais ce sont les disciples dispersés qui ouvrent la voie, puis les apôtres, eux, entrent à la remorque de ce que les disciples ont fait à cause de l'œuvre de Philippe en Samarie. Ensuite de ça, les apôtres, Jean et Pierre, vont continuer à aller prêcher dans les villes de Samarie. C'est vraiment intéressant. Et Luc est en train de nous donner une exhortation. Une exhortation où Luc est en train de nous dire, en quelque sorte, est-ce que ça se pourrait, toi qui as l'Esprit de Dieu, que Dieu t'appelle toi aussi à faire cette œuvre-là? Est-ce que ça se pourrait que tous les enfants de Dieu soient des prophètes de la parole de Dieu? C'est vraiment intéressant. On arrive dans une phase où l'Évangile va prendre une expansion extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez la parabole du bon samaritain. Dans Luc 10, la majorité d'entre vous, vous la connaissez, n'est-ce pas? La parabole du bon samaritain, Jésus s'en est servi avec beaucoup d'ironie pour enseigner sur ce que c'est que la miséricorde. Jésus est ironique, non pas parce qu'il illustrerait ça par un juif qui irait faire un acte de miséricorde envers un samaritain, mais parce que c'est un samaritain qui a un geste de miséricorde envers un juif. Et ce matin, j'aimerais ça vous présenter un bon samaritain. Un bon samaritain juif qui va vers les samaritains. C'est quoi un bon samaritain selon l'expression populaire et selon ce passage dans Luc 10? Mais c'est un gars ou une fille qui agit par miséricorde envers des gens pour qui il n'y a pas d'attirance Au contraire, peut-être même qu'il aurait naturellement de l'antipathie. C'est ça un bon samaritain, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui vient en aide, qui agit avec miséricorde à l'égard de quelqu'un pour qui il n'y a pas d'attirance. Et qui simplement va lui faire du bien. Ce matin, je vais vous parler d'un bon samaritain juif qui est allé vers les Samaritains. Pour bien comprendre ce qui se passe ici, il faut connaître un petit peu l'histoire qui sépare les Samaritains des Juifs. C'est littéralement une haine ancestrale qui sépare ces deux peuples-là, qui ne sont pas tout à fait deux peuples en réalité. C'est plus complexe que ça. Mais il y avait une antipathie culturelle, naturelle, entretenue depuis des siècles. Ça remonte en fait environ à 1000 ans avant le passage où nous nous trouvons, le moment où cette séparation, cette division s'est opérée. 1000 ans plus tôt, les 12 tribus qui composaient le peuple d'Israël ont vécu un schisme, une division. 10 d'entre elles ont décidé d'abandonner Jérusalem comme capitale principale. Le royaume s'est divisé en deux. 2 tribus sont restées fidèles à Jérusalem. 10 se sont séparées et ont pris la ville de Samarie comme nouvelle capitale. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a des tensions, il y a une division. Ces tensions-là se sont amplifiées lorsqu'en 722, l'empire de Samarie a réussi à faire la conquête du territoire du nord des 10 tribus. Et il y a eu déportation, une stratégie habituelle par tous les peuples conquérants dans ces époques-là. Eh bien, lorsque tu faisais la conquête d'un territoire, pour t'assurer de pouvoir dominer le territoire à distance, tu déportais la plus grande partie de la population, celle qui était la plus forte. Tu faisais d'eux des esclaves, tu les déportais et tu laissais là le petit peuple qui était plus fragile afin que le territoire ne soit pas envahi par des bêtes sauvages, qu'on ne perde pas les acquis, l'infrastructure, tout ce qui a été bâti, tout ce qui a été préparé comme champ à labourer, tout ça. Et tu amenais d'autres peuples étrangers là. Des fois, des peuples que tu avais conquis ailleurs. Un peu comme si quelqu'un arrivait ici puis décidait qu'on va prendre des gens du Mexique qui vont venir vivre ici au Québec et c'est eux qui vont venir diriger. Peut-être que c'est même pas le peuple conquérant, mais on déplaçait les populations comme ça pour pouvoir les conquérir, pour pouvoir les dominer et pour pouvoir les soudoyer. Alors vous comprenez, en 722, le royaume du Nord est déporté, des étrangers viennent s'installer là, la division entre Jérusalem, les 2 tribus qui sont restées fidèles à Jérusalem, et le reste du territoire s'amplifie davantage. Maintenant, pour mettre la cerise sur le sundae, si je peux dire, ou pour pousser ça à sa limite, eh bien, lorsque le peuple juif est revenu de sa déportation, parce que là, les 2 royaumes avaient été déportés, lorsque le peuple juif est revenu au 4e siècle, ceux qui sont venus reconstruire le temple ont refusé toute aide de ceux qui étaient au nord, parce qu'ils les considéraient comme des demi-juifs. Il y avait des étrangers qui s'étaient mêlés à ce peuple-là. Alors, à ce moment-là, ceux du Nord ont décidé de se construire leur propre temple sur le mont Garizim, afin d'aller adorer là. Et puis, ils ont rejeté la majeure partie de l'Ancien Testament, ne conservant que le Pentateuque. Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ils ont conservé seulement cela. Donc, à partir de ce moment-là, et ça s'est construit comme ça, comme vous le voyez à travers les siècles, il y a eu une antipathie énorme qui s'est construite entre ces deux peuples-là. Et les Juifs n'allaient pas vers les Samaritains ne venaient pas vers les Juifs. C'est ce qui est extrêmement surprenant, voire choquant, lorsque Jésus va s'adresser à une Samaritaine et qu'il va aller vers elle et qu'il va l'instruire. Maintenant, si vous vous rappelez de l'histoire de Jésus avec la Samaritaine, à un certain moment donné, elle pose des questions à Jésus sur le Messie. Si vous êtes familier avec l'Évangile de Jean, pose des questions sur le Messie. Les Samaritains, même s'ils n'avaient pas tout l'Ancien Testament, attendaient un Messie. Pourquoi? Parce que Moïse avait promis qu'un autre prophète viendrait, un autre prophète comme lui. Alors, les Samaritains attendaient un Messie. Ils ne s'attendaient pas à un Messie qui descendait de la lignée de David. Ils ont rejeté tout le reste de l'Ancien Testament. Mais ils s'attendent à un autre prophète comme Moïse. Et donc, ils l'attendent. Et lorsque Philippe va arriver là-bas, il va leur parler du Christ. Il va annoncer le Christ. Il va annoncer le Messie. Ce matin, je résume ce que je veux faire ressortir de ce passage-là en 3 points, puis on peut les résumer comme ceci. L'Évangile franchit les murs qui nous séparent. L'Évangile est une puissance que l'Esprit appuie glorieusement. Puis le troisième est un peu cru, mais je pense qu'il faut le dire comme ça. L'Évangile n'est pas une autre patente spirituelle à vendre. Vous pouvez suivre ça sur votre feuille de notes qu'on vous a donnée à l'intérieur du dépliant. Avec l'histoire que je vous ai racontée sur cette division-là historique qu'il y a entre les Samaritains et puis entre les Juifs, vous pouvez mesurer un peu plus le courage que ça a demandé à Philippe pour aller spontanément se rendre en Samarie, pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour aller annoncer le Christ aux Samaritains. Philippe n'a aucune idée comment est-ce qu'il va être reçu. Ils viennent d'être persécutés à Jérusalem. Les Juifs sont en train de les rejeter. Ceux qui avaient à se convertir en masse se sont convertis en masse dès le début de la proclamation. Et maintenant, il va continuer à y avoir des Juifs qui vont se convertir, mais ça va être beaucoup moins nombreux. Ces disciples-là ont goûté, ont connu le rejet. Ils savent ce que c'est, là. Philippe sait ce que c'est. Ils ont possiblement assisté, possiblement que Philippe était là au meurtre d'Étienne, sinon il en a entendu parler. Ce frère avec qui il était la veille est disparu le lendemain. Alors Philippe sait ce que ça implique. Il sait ce qui peut lui arriver. Et il décide de se rendre vers ces gens-là pour qui, naturellement, il n'a aucun attrait. Culturellement, il y a un fossé énorme qui les sépare. Il y a des murs, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots, parce qu'on construit des murs, n'est-ce pas, en Israël? Mais il y avait des murs qui étaient construits entre la Samarie et Philippe. Et Philippe a ce courage d'aller vers eux pour leur annoncer l'Évangile. Philippe décide de franchir des murs culturels, des murs relationnels, des barrières qui se sont construites à travers des siècles. Pourquoi est-ce que Philippe fait ça? Comprendre l'Évangile, c'est comprendre que les murs qui nous séparent de Dieu sont tombés. Saisir l'Évangile, c'est saisir que Dieu est saint, que Dieu est parfait, que Dieu est glorieux, que Dieu est majestueux et que nous sommes pécheurs. C'est ça l'Évangile, n'est-ce pas? Ça commence là. Comprendre l'Évangile, c'est comprendre que Christ est venu franchissant tous les murs de séparation qui nous séparaient de son Père, afin que nous puissions être accueillis dans la présence de Dieu. Christ est venu par son sacrifice construire ce pont qui nous sépare de Dieu, qui nous permet de franchir ces murs qui nous séparent de Dieu parce que nous sommes des pécheurs. Et dans une certaine mesure, si on peut voir et on peut comprendre qu'un être humain peut avoir de l'antipathie pour quelqu'un d'autre, qu'un être humain peut voir des barrières culturelles, des barrières historiques, l'amener à avoir toutes sortes de préjugés, essayez d'imaginer le mur qui est construit entre un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu pur et un pécheur. Un pécheur, un être humain qui est condamné par ses propres fautes, qui a toujours des motifs, généralement des motifs doubles, qui ment, qui vit dans le péché. Dieu, je vous le dis tout de suite, pour lui, vous étiez antipathique. Et si vous ne l'êtes plus, c'est parce que vous avez saisi Christ. C'est parce que vous êtes caché derrière la croix de Jésus-Christ. Autrement, il n'y a rien en vous qui fait que Dieu aurait le goût de passer la soirée avec vous pour prendre un bon petit café. Dieu a des amis qui sont beaucoup plus sympathiques que vous et moi parce que nous sommes pécheurs. Bien, Philippe a reçu l'Évangile. Philippe a reçu l'Évangile de Jésus-Christ dans son cœur. Il a reçu cette bonne nouvelle que Christ était mort sur la croix, non pas comme un accident historique, non pas comme un Gandhi qui aurait été crucifié, mais Philippe a compris que Jésus était le Christ, il était le Messie et que les choses devaient se produire ainsi. Il a compris qu'à travers l'œuvre du Christ à la croix, les murs de séparation qui le séparaient de Dieu tombent, sont franchis par Christ. Et Philippe a compris que bien qu'il soit naturellement antipathique à l'égard de Dieu, il est maintenant accueilli dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que Philippe peut faire d'autre que d'étendre cette grâce à des gens qui, historiquement, lui étaient antipathiques? Des gens qu'il méprisait probablement profondément dans son cœur. Vous savez, le mépris, c'est profond. Hier, j'étais en train de réfléchir, puis à un moment donné, à deux reprises, j'ai vu du mépris apparaître dans mon cœur. C'est subtil, hein? C'est caché dans toutes sortes de choses, mais c'est là, puis ça crée des murs, ça crée des barrières. Et j'ai perçu qu'il y avait du mépris dans mon cœur. Philippe devait les mépriser, ces gens-là. Ça se peut pas qu'ils les aient pas méprisés. Écoutez, ils rejettent Dieu. Ils rejettent la parole de Dieu. Ils ont rejeté Jérusalem. Ils ont rejeté le temple. Ils ont rejeté les prophètes. Ce sont des impurs. Ils ont rejeté la loi de Dieu. Philippe devait les mépriser profondément. Mais Philippe a été touché par la grâce de Dieu et il ne peut plus voir les Samaritains comme des êtres méprisables. Il les voit à présent comme des pécheurs qui ont besoin de recevoir la miséricorde de Dieu. Et Philippe est maintenant libre de franchir les murs de séparation qui le séparaient de ces gens-là. Et chacun d'entre nous, qui avons connu personnellement Jésus-Christ, qui avons saisi que ce mur qui nous séparait de Dieu a été franchi par Christ afin que je puisse aller dans la présence de Dieu, chacun d'entre nous, nous sommes libres à notre tour. Amen. Nous sommes libres à notre tour d'aller vers les gens qui, naturellement, culturellement, historiquement, peu importe la raison, nous sommes antipathiques. Nous sommes libres non seulement de ne pas les juger, parce que des fois, on s'arrête là, n'est-ce pas? « Ah, moi, je ne veux pas le juger, c'est un pécheur, je suis un pécheur. » Dans le fond. Non, je suis libre de devenir un bon samaritain à mon tour pour aller vers eux. Pour laisser la miséricorde que Dieu a manifestée envers moi se déployer dans mon cœur à présent pour aller vers eux. Je suis libre de franchir tous ces murs-là. Je ne sais pas, chez vos voisins, chez les gens au Québec, chez les gens que vous côtoyez, au travail, dans votre famille, il y a de ces murs qui se bâtissent parce qu'il y a des vieilles chicanes qui sont là. Il y a des murs qui se bâtissent parce que c'est l'étranger, c'est l'autre, c'est celui que je ne connais pas, c'est celui qui vient de loin avec qui je n'ai aucune affinité, c'est celui qui parle avec un langage que je ne saisis pas, ses codes culturels sont pas les mêmes que les miens, je suis pas à l'aise, je me sens pas chez moi quand je suis dans sa présence. Et t'es libre maintenant d'aller vers eux. Et de laisser la miséricorde que Dieu a manifestée envers toi entrer dans ton cœur, venir te convaincre. Tu es convaincu, n'est-ce pas, que ce mur qui te séparait de Dieu est tombé? Tu es libre maintenant d'aller vers eux avec un cœur rempli de miséricorde. Peu importe comment ils vont te recevoir. Oh, si Christ était venu vers nous à la condition unique que nous le recevions adéquatement, mais où situe la croix là-dedans? Non, il fallait premièrement qu'on lui crache au visage pour qu'il puisse nous sauver ensuite. Alors, qu'est-ce que ce serait pour toi d'être mal reçu? Ils ne sont peut-être pas libres, eux autres, de venir vers toi. Parce que s'ils n'ont pas reçu Christ, ils n'ont pas cette liberté de venir vers toi. Et ces murs que tu vois, ils les voient probablement. Et ton indifférence affichée depuis des années envers des voisins, envers des collègues de travail, envers des gens, pour toutes sortes de raisons, celles qu'on a mentionnées, mais d'autres encore, ont contribué à bâtir ces murs-là. Et ces gens-là ne sont peut-être pas libres de venir vers toi. Mais toi qui as goûté la miséricorde de Dieu, tu es libre d'être un bon samaritain. Un bon samaritain. Pour leur apporter la miséricorde de Christ. Amen. Voyez-vous, l'Évangile n'a pas de frontières. Lorsqu'on arrive dans ce passage-là, une des choses qui est extraordinaire, je l'ai mentionné un petit peu au début, on voit l'accomplissement de Actes 1, 8 et 9. Lorsque Jésus a annoncé que l'Évangile par la puissance de Dieu, et ça prenait la puissance de Dieu sur Philippe pour aller en Samarie. Je viens de l'illustrer depuis 10 minutes. Ça prenait la puissance de Dieu. Jésus avait annoncé que cette puissance-là allait se manifester par l'Esprit Saint et que l'Évangile serait annoncé à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les deux passages de cette semaine et de la semaine prochaine sont en train d'illustrer ça tout simplement parce que on vient chez les Samaritains cette semaine et la semaine prochaine, on va rencontrer un Éthiopien. Voyez-vous, on assiste à ce moment-là une démonstration extraordinaire que l'Évangile ne connaît pas de frontières. L'Évangile est indifférent aux frontières. Il vient pour faire la conquête des cœurs qui vont recevoir Christ. Et pour cela, il faut que nous franchissions ces barrières-là, que nous faisions fi de toutes les frontières qui existent pour aller donner Christ avec miséricorde. Et je crois que l'Esprit Saint voulait souligner ce moment-là comme un moment important dans l'établissement du royaume de Dieu, dans l'expansion du royaume de Dieu. Voyez-vous, quand les apôtres ont entendu parler que les Samaritains avaient reçu la parole, pouf, les bras leur en sont tombés. Ils n'en revenaient pas. Je ne vois pas dans le passage qu'ils étaient opposés d'aucune manière. Ils ont dit, quoi? Quoi? Il y a des disciples qui sont allés là-bas et puis les Samaritains ont reçu des Juifs, puis ils ont reçu l'Évangile. Et ça, c'est énorme. Ça veut dire qu'ils ont reconnu que le Messie n'était pas seulement celui annoncé par Moïse, mais c'était celui annoncé par tous les prophètes, par tout le reste de l'Ancien Testament. Quoi? Les Samaritains se sont ouverts à tout l'Ancien Testament, à toute la parole de Dieu. Ils reconnaissent les prophéties. Alors, les apôtres envoie deux apôtres sur place pour aller constater les faits. Pierre et Jean, Pierre à qui Jésus avait dit « Voici, je te confie les clés ». Pierre qui va présider ces moments-là, qui préside à la Pentecôte, qui préside ici aussi, qui va présider au moment où Corneille, un païen, va recevoir l'Esprit. On va voir ça bientôt. Mais il y a ces moments marquants où Dieu veut confirmer, Dieu veut sceller quelque chose. Et l'autre manière que je le vois dans le passage, où je vois l'Esprit faire quelque chose d'anormal, quelque chose d'exceptionnel, voyez-vous, l'Esprit, je vais le dire comme ça, d'accord, je crois que Dieu a retenu l'Esprit. Pierre avait dit, croyez, repentez-vous, croyez en Jésus, soyez baptisés en son nom pour recevoir le don du Saint-Esprit. Et il y a quelques occasions dans le livre des Actes où les croyants ne reçoivent pas l'Esprit automatiquement au moment où il croit. On voit ça à la Pentecôte. On voit ça ici. Il y a quelques circonstances où les choses ne se font pas automatiquement. Et c'est étrangement comparable avec la Pentecôte, ce qui se passe ici. Les disciples à la Pentecôte croyaient déjà en Jésus, n'est-ce pas? Ils avaient déjà cru en lui. Ils l'avaient vu ressusciter. Ça, c'était réglé pour eux. C'était le Christ. Ils croient en Jésus. Ils n'ont pas reçu encore le Saint-Esprit. Ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit encore. C'est ça qui se passe ici. Et je ne crois pas que Luc est en train de nous dire que le Saint-Esprit est toujours donné par imposition des mains, que le Saint-Esprit demande toujours la présence d'un apôtre pour être reçu, ou des choses comme ça, ou que la conversion, c'est quelque chose qui se fait en deux phases, en deux temps. Tout de suite après, on va voir la conversion d'un Éthiopien. Il n'est pas question de comment est-ce qu'il a reçu l'Esprit, et je ne peux pas concevoir que Philippe va baptiser cet Éthiopien puis va le laisser partir seul dans son pays, sans église, sans l'Esprit de Dieu. Non, voyez-vous, l'Esprit de Dieu nous est donné au moment où nous croyons, nous nous repentons, nous croyons en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est donné. Mais Dieu voulait, dans sa souveraineté, que ces deux apôtres-là soient là parce qu'ils doivent retourner à Jérusalem et faire le récit de ce qu'ils ont vu. Et ils vont faire le récit d'un peuple qui était étranger à Dieu, mais dont le cœur s'est ouvert à Dieu. Et ils vont raconter, lorsqu'on leur a imposé les mains, Dieu leur a donné l'Esprit. C'est une œuvre de Dieu qui est en train de faire ici. Il y a un petit peu d'ironie dans le passage aussi, comme Dieu sait le faire tellement souvent. Un des deux apôtres, c'est Jean. C'est quoi le surnom de Jean et de son frère? fils du tonnerre. Mais d'où est-ce qu'ils ont hérité ce titre-là? Parce qu'un jour, Jésus voulait aller prendre un repas en passant par la Samarie et ils n'ont pas été bien reçus. Et Jean et son frère ont dit, « Seigneur, veux-tu que nous invoquions la foudre pour détruire cette ville? » Puis le Saint-Esprit envoie Jean en Samarie pour imposer les mains qui reçoivent le Saint-Esprit. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Est-ce qu'il y a des murs pour l'Évangile? Est-ce qu'il y a des frontières pour l'Évangile? Est-ce qu'il y a des murs et des frontières dans votre vie qui vous empêchent d'aller poser ce geste de miséricorde, d'apporter l'Évangile à des gens? Philippe nous montre ici qu'il n'y en a pas de murs. Jean nous montre ici qu'il n'y en a plus de murs. À cause de Jésus-Christ, ces barrières-là tombent. Jean qui méprisait ce peuple-là, au point de vouloir en faire Sodome et Gomorre, foudroyé par Dieu. Mais Jean est là et il préside ce moment-là où ils reçoivent l'Esprit-Saint. C'est absolument extraordinaire. C'est absolument merveilleux. L'Évangile ne connaît pas de frontières. Deuxièmement, l'Évangile est une puissance que l'Esprit appuie glorieusement. Et là, je rentre sur un terrain un petit peu plus délicat. Vous êtes dans une église baptiste, hein, ici. Ouf, il y a des miracles qui se passent ici, des esprits qui sont chassés. J'ai essayé de suggérer au Seigneur qu'il pourrait peut-être comme retoucher le texte cette semaine. Il n'a pas voulu. L'Évangile est une puissance que l'Esprit appuie glorieusement. Les Samaritains étaient sous l'influence, littéralement, ils étaient sous l'influence de puissances diaboliques. Et ça nous est mentionné ici. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas une tonne d'exorcismes de moments où on chasse des démons dans le livre des Actes, mais celui-là, c'en est un. Voyez-vous, les Samaritains étaient depuis de nombreuses années sous l'influence d'un magicien. Les livres d'histoire nous parlent de Simon le magicien, Justin Martyr nous parle de Simon le magicien. On ne sait pas jusqu'à quel point son influence était grande, mais elle était assez grande pour être connue dans la région. Et cet homme-là avait réussi à avoir un pouvoir, un ascendant sur ce peuple par de la magie qu'il pratiquait. Et on trouve ici une espèce de lutte comme celle qu'on observe dans l'Ancien Testament entre Moïse et les magiciens, les mages d'Égypte. N'est-ce pas? Où il va y avoir cette guerre, cette manifestation de puissance qui va être là. Simon avait réussi à avoir une influence sur le peuple tellement grande que ça s'était transformé dans une sorte de culte. Il y avait un culte autour de sa personne, puisque les Samaritains voyaient en lui la puissance de Dieu. Il appelait « Voici celui qui est devant nous l'incarnation de la puissance de Dieu ». Certains livres nous disent qu'il était adoré, qu'il y avait un culte qui lui était voué. Je ne sais pas si ça allait jusque-là, mais voyez-vous, c'était plus que « Oh, wow, nice show ». C'est plus que ça. Il y avait un culte qui lui était voué et ces gens-là le craignaient. Et donc, Dieu intervient de manière extraordinaire ici. Le livre des Actes est rempli de miracles et de prodiges. Vous êtes d'accord avec moi? Ça va continuer, Paul va en faire aussi. Dans ce contexte-ci, les miracles, ces prodiges-là, prennent un sens particulier et il faut le voir ici. Parce qu'il faut voir comment l'Esprit de Dieu vient appuyer l'œuvre d'évangélisation dans ce contexte-ci. Et le passage nous dit tout simplement, au verset 7, « Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. » Certainement qu'à travers ces années, à être sous l'influence de la magie, il y avait vraiment un rôle d'esprit impur, d'esprit démoniaque qui était manifestement plus présent dans ce territoire-là, à ce moment-là. Et l'Esprit de Dieu vient appuyer d'une manière particulière l'œuvre de l'Esprit. L'Évangile, nous dit la parole de Dieu, est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Romains 1, 16. Jésus nous dit qu'une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, va vous accompagner dans votre évangélisation. Et je crois que l'Esprit appuie puissamment l'œuvre d'évangélisation selon les circonstances, selon les situations, ici par des miracles, dans les actes, souvent par des miracles, même par des esprits qui sont chassés. On va voir un tout petit peu après l'approche avec l'Éthiopien. Il n'y a pas de miracles qui sont faits là, mais il y a une connaissance de la parole de Dieu extraordinaire qui permet à Philippe de partir d'Ésaïe pour pouvoir annoncer l'Évangile. Lorsque Paul va aller à Athènes, Dieu va lui donner une puissance de raisonnement à ce moment-là pour pouvoir discuter. Alors, il n'y a pas systématiquement toujours des miracles. Et j'essaie moi-même de comprendre parce que dans le livre des Actes, c'est clair qu'il y a une emphase particulière sur les miracles. Comme dans les Écritures, il y a des moments où Dieu fait davantage de miracles, c'est clair que dans le livre des Actes, il y a un moment particulier où les miracles sont extrêmement nombreux. Et lorsqu'on avance ensuite dans les Épîtres et qu'on voit le déroulement, le développement, même dans cette période-là de l'histoire de l'Église, les miracles sont présents mais moins présents. Alors, bien honnêtement, bien franchement avec vous, c'est un casse-tête pour moi. Parce que je prie et je dis, Seigneur, je veux annoncer ta parole et je veux que tu te manifestes avec puissance. Et je sais que Dieu fait encore des miracles. Dieu fait des miracles souvent à travers la réponse aux prières. Dieu fait des miracles, on entend des récits à travers des chants missionnaires et j'aimerais ça moi-même en voir davantage ici. Mais je reconnais que Dieu agit différemment dans différentes circonstances. Et vous avez entendu sûrement des récits de conversion où des gens étaient touchaient davantage à la magie. Et il y avait des manifestations qui étaient là et il a fallu faire des interventions différentes dans ce cas-là. Ce sont des choses qui sont là. On a l'impression qu'elles ne sont pas présentes parce que nous les voyons moins. Si vous jasez avec Marc Levasseur, qui est vraiment dans un autre contexte culturel, vous allez entendre des histoires aussi assez impressionnantes. Ce que je veux souligner ici, c'est que je ne veux pas douter de Dieu et douter que Dieu veut, par l'Esprit, appuyer puissamment la proclamation de l'Évangile. Et donc, je veux m'attendre à Dieu quand je m'en vais annoncer l'Évangile. Je ne suis pas en train de dire qu'on va se mettre à faire plein de miracles. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je m'attends à ce que l'Esprit se manifeste, que ce soit par une conversion radicale, que ce soit parce que le cœur de la personne à qui je m'adresse est confus, que ce soit parce que Dieu veut guérir cette personne-là. Quelle que soit la manière, je veux m'attendre à Dieu. Amen. Je veux croire en Dieu. Il a ressuscité mon Sauveur d'entre les morts. Il n'est pas lié. Il n'est pas lié par une époque rationnelle et anti-surnaturelle. Il n'est pas lié par ça. William Carey, celui qu'on reconnaît comme étant le père de la mission moderne, avait ce slogan parce qu'il est parti en mission contre tous les conseils, il est allé en Inde et a suivi cet homme-là une manifestation extraordinaire de la puissance de Dieu par les centaines de missionnaires qui sont partis. Et William Carey avait ce slogan, il disait, en anglais je l'oublie comment est-ce que c'est mentionné, en français, « Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu et tentez de grandes choses pour Dieu. » Et William Carey s'attendait à son Dieu parce qu'il connaissait la grandeur de son Dieu. Et vous savez quoi? Lorsqu'il est arrivé en Inde, les 6 ou 7 premières années ont été misérables. Misérables. Il y a eu des tensions dans l'équipe. Il y a même un des missionnaires qui détournait des fonds. Ils sont là-bas. Ce n'est pas à l'époque où tu fais transférer de l'argent dans ton compte, vous comprenez? C'est tu t'en vas au courrier, tu écris, ça revient par bateau. Des semaines sans nourriture, des semaines de disette, de maladie. Son épouse est tombée dans une dépression profonde qu'elle n'a jamais quittée. Ça a été une période extrêmement dure. Ils ont perdu des enfants qui sont décédés de la maladie là-bas. Pendant 6 à 7 ans, pas de fruits. Mais cet homme-là connaissait Dieu. Il attendait de Dieu de grandes choses et il tentait pour Dieu de grandes choses. Et il s'en est suivi dans sa vie, de son vivant, il l'a vu, et de son ministère ensuite, des milliers de gens qui sont partis sur le champ missionnaire et ils ont réussi à percer cette culture-là, franchir les murs avec l'Évangile et des milliers de gens se sont convertis à l'Évangile. Alors, je ne veux pas limiter Dieu. Je veux m'attendre à ce que l'Esprit de Dieu m'accompagne lorsque je veux prêcher l'Évangile, qu'il confonde les cœurs de la manière qu'il le voudra, qu'il me remplisse de sa puissance, de son assurance lorsque j'annonce l'Évangile à mon voisin et qu'il vienne faire une intervention puissante. Et que Dieu intervienne comme il juge bon de le faire. Mais je vois cela constamment à travers le livre des Actes. L'Esprit de Dieu est là pour appuyer notre effort d'évangélisation. Amen. Troisièmement, l'Évangile n'est pas une patente spirituelle à vendre. Vous savez qu'il y a des patentes spirituelles qui se vendent sur le marché? Il y a un marché de la patente spirituelle. Je veux dire, c'est toute une gamique. C'est l'expression de ABO qui m'est revenue de mon enfance. Il y a toute une gamique de patentes spirituelles qui sont à vendre sur le marché dans toutes sortes de domaines. Je ne parle pas seulement du christianisme, mais je veux dire, allez dans la section spiritualité, dans les grands libraires, ouvrez la télé vers les heures un peu plus tardives, les patentes spirituelles vous sont proposées. Ce sont des patentes pour faire de l'argent, pour avoir un ascendant sur les gens. Et il y avait un patenteur de patentes spirituelles là-bas, Simon le magicien. Et lorsque Simon a vu l'Évangile, mais dans un premier temps, on a l'impression qu'il se convertit, n'est-ce pas? Parce qu'il nous est dit qu'il a cru et qu'il a été baptisé. Alors, on a l'impression qu'il y a vraiment une conversion qui se passe ici. De toute évidence, les apôtres ne lui avaient pas imposé les mains. Et il y a quelque chose d'étrange. Luc prend le temps de nous dire, tout de suite après avoir été baptisé, il suivait Philippe. Puis là, il commence à regarder les gars, puis les gars commencent à imposer les mains. Puis, il nous a même pas dit comment ça se manifestait, mais quand il imposait les mains, l'évidence que l'Esprit arrivait était là. On ne sait pas de quelle manière. Et là, Simon a dit, « Oh! Eux autres sont forts! Oh, man! J'avais de l'influence sur ce peuple-là! » Combien ça coûte? Veux-tu l'acheter? Non, mais c'est pour leur faire du bien, hein? Je vais leur annoncer l'Évangile. Je vais leur parler de Jésus. C'est fini. Non, c'est fini le reste, je vous le dis. Combien ça coûte? Je veux bénir les gens autour de moi. Je veux les bénir. Je veux venir, puis « Oh, je te bénis! Oh, toi, je te bénis! » Combien ça coûte? Je veux bénir les gens autour de moi. C'est une gamique. Et Simon voit dans cela une opportunité de faire de l'argent, d'avoir un ascendant sur les gens, de retrouver encore avec plus de puissance ce pouvoir-là. Écoutez, la Samarie est en train de se convertir. Il faut juste que je change de soutane puis que je trouve comment continuer à contrôler ce peuple-là après. L'Évangile n'est pas une patente spirituelle à vendre. L'Évangile est un don gratuit de Dieu. Pierre se tourne vers lui et il le maudit. C'est ça que Pierre fait. Péris-toi puis ton argent. Pierre le maudit. Il dit, parce que tu as voulu acheter avec de l'argent ce que Dieu est venu donner au prix du sang de Christ. Sois maudit. L'Évangile est un don gratuit que Dieu nous a donné. Ce n'est point par les œuvres qu'on est sauvé, mais c'est par la grâce de Dieu seulement qu'on est sauvé. L'Évangile, c'est une grâce que Dieu donne aux hommes. L'Évangile se donne par un cœur qui est généreux, un cœur qui se donne lui-même. Et nous avons la responsabilité comme chrétiens, lorsque nous annonçons l'Évangile, d'illustrer ce don gratuit de Dieu. Nous avons la responsabilité d'aller vers les gens en nous offrant nous-mêmes à eux. Il n'y a pas de place dans nos interventions avec les gens pour que les gens aient l'impression qu'on intervient avec eux, qu'on va vers eux par intérêt personnel. Il n'y a pas de place pour que quelqu'un veuille gagner quelques mérites à travers son évangélisation. Il n'y a pas de place pour que je puisse me vanter d'avoir conduit telle âme au Seigneur. Il n'y a pas de place pour qu'une église commence à s'élever au-dessus d'une autre église. Tout ce que nous faisons ici, nous l'avons reçu gratuitement de Dieu. Et tout ce que nous voulons donner, nous voulons le donner gratuitement. Et cette gratuité-là, par opposition complète avec ce que Simon est et incarne comme personnage, doit ressembler au don de soi de Philippe, au don de soi de Pierre et Jean. Rappelez-vous que ces gars-là ont quitté leur barque pour servir le Seigneur. Réalisez ici que Philippe a quitté son confort, c'est vrai, avec un coup de pied. On est d'accord, il a quitté Jérusalem chassé. Mais rien ne forçait à aller en Samarie. Philippe, en venant en Samarie, est en train de se donner lui-même pour aller donner l'Évangile. L'Évangile est un don gratuit et par mon attitude de vie, par mon désir d'aller vers des voisins qui ne me parlent pas, par mon désir de venir servir la bouffe pour tous puis inviter ces gens-là à venir manger chez moi, entrer dans ma vie, par mon désir d'aller vers l'inconnu, la personne vers qui je n'ai pas d'intérêt et de l'inviter à entrer dans ma vie, par mon désir d'aller rendre service. Voyez-vous, par le don de moi-même, je viens attester que l'Évangile est un don gratuit de Dieu. Par cette générosité de mon cœur, pas simplement à glisser un traité. Pas simplement à dire, garde, c'est super, on a un programme dimanche prochain à l'église, ça va être tellement hot, tu vas aimer ça. C'est bon, c'est génial, inviter des gens quand il y a ça. Mais vous comprenez que c'est pas suffisant. Parce qu'on reste dans notre confort à dire, ben si le programme est assez hot, je pense que je pourrais inviter mon ami, j'aurais pas honte, je pense qu'il va entendre l'Évangile. Puis là, paf, tu l'invites, il tombe sur un Tony Anthony avec ses images de flammes en avant. Non, mais c'est vrai qu'il est intense, Tony. Simon voit ça comme une gimmick. Et lorsque nous, on reste dans notre petit confort nord-américain, pas trop dérangé dans notre petite vie, puis qu'on dit, ben Seigneur, ça fait longtemps que je n'ai pas témoigné, j'aimerais ça que tu m'ouvres une petite porte à un moment donné, sans être dans cette vie de sacrifice, de don de soi, de se donner pour l'autre pour aller franchir ces murs-là. Mais nous sommes en train de renforcer cette image que le christianisme, c'est pour une gang d'élus qui ont compris quelque chose que les autres n'ont pas compris, qui mettent de l'ordre dans leur vie puis qui ont une petite vie bien rangée. C'est pour les saints, le christianisme. Non, le christianisme, c'est pour ceux qui n'ont pas peur de salir les mains en allant vers les Samaritains. Ceux qui n'ont pas peur, comme le bon Samaritain, de déranger leur horaire, de déranger leur portefeuille, de faire un détour, de prendre des risques d'être rejetés pour aller offrir le don gratuit de Dieu, Jésus-Christ, avec miséricorde. Je ne sais pas si tu connais Jésus-Christ. Je le dis souvent à l'Église ici, je ne prends pas pour acquis le fait que tu fréquentes cette assemblée semaine après semaine. Cela ne fait pas de toi un chrétien. Ça fait de toi quelqu'un qui va à l'Église le dimanche. Si tu ne connais pas personnellement Jésus-Christ, je veux que tu le rencontres. Je veux que tu puisses réaliser que Christ est venu pour franchir les murs qui te séparent de Dieu. Ce mur-là s'appelle simplement tous les péchés de ta vie. Tout ce qu'il y a de secret et de connu dans ta vie qui vont t'amener à vivre une honte infinie quand tu vas te présenter devant Dieu. Ah, peut-être qu'aujourd'hui, ça passe. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de honte parce que tu vis au milieu des pécheurs. On est tous pareils. Je me sens comme les autres. Mais attends d'entrer dans la présence de Dieu, celui qui est sans péché. Ça, c'est le mur qui te sépare de Dieu. Et ce Christ qui est venu mourir sur cette croix afin de payer le prix de tes péchés. Il est venu offrir un sacrifice de sang. C'est sanglant, la croix. Parce que le péché est quelque chose d'immonde, d'horrible. On en voit un peu les effets lorsqu'on lit le journal. On voit certains péchés qui nous semblent affreux. Ceux qui font partie de notre vie, on les trouve moins affreux, c'est tout. Mais pour Dieu, ces choses sont immondes et demandaient un sacrifice sanglant pour le pardon des péchés. Et Christ est ressuscité d'entre les morts. Dieu a agréé son sacrifice afin que le mur qui te sépare de Dieu puisse tomber et que tu puisses être accueilli par la miséricorde de Dieu et devenir un enfant de Dieu pour devenir comme Philippe, un bon Samaritain. Qui va vers les Samaritains, qui franchit tous les murs, toutes les frontières, et qui s'offre lui-même généreusement pour pouvoir offrir ce don gratuit. Frères et sœurs, ceux d'entre vous qui êtes mes frères et mes sœurs dans la foi, Christ vous appelle, à étendre la miséricorde qu'il a déployée envers vous aux gens autour de vous. Ça va vous demander de sortir de votre confort, je vous le garantis. Ça va vous demander de devenir des bons samaritains. Ça va vous demander d'aller vers des gens qui vous sont antipathiques, des gens vers qui vous n'avez pas d'attirance naturelle, des gens que vous ne voudriez pas fréquenter, des gens que vous ne voudriez pas accueillir dans votre maison. des gens que vous ne voudriez pas voir entrer dans votre vie parce qu'ils sont tout croches et ils sont dérangeants. Ça va vous demander de faire de l'espace dans votre horaire. Dieu l'avait tellement à cœur qu'il a permis que l'Église de Jérusalem, l'Église de banlieue par excellence, où tous les ministères sont en train de s'installer, remplis de l'Esprit, c'était le party tous les dimanches dans cette Église-là. Puis Dieu, mes amis, paf! Il dit, OK, les disciples, allez évangéliser maintenant, c'est le temps. Une bonne tape sur les fesses du cheval, puis let's go! Mais ça, ça bouleverse un horaire, ça. Je peux vous le dire que lundi matin, on ne rentre pas au boulot, on n'est plus à Jérusalem. Ou on couche à soir, je ne sais pas. Ça va nous demander de devenir des bons samaritains, frères et sœurs. 380 000 personnes à atteindre juste ici à Longueuil, des missionnaires à envoyer. Et ça commence par chacun d'entre nous qui prenons cette décision personnellement. Dieu ne vous demande pas de changer la terre. Dieu vous demande de regarder autour de vous. Qui sont ces gens vers qui vous n'iriez pas naturellement et de devenir un bon samaritain pour eux en leur annonçant l'évangile, le don gratuit de Dieu en étendant vers eux sa miséricorde. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ce beau passage. Merci Seigneur pour ce Philippe qui est transformé, qui... Oh Seigneur, c'est tellement beau à voir. Vois Seigneur ces barrières qui tombent, ces frontières qui sont renversées, Seigneur, ces murs qui s'effondrent, qui sont traversés. Et de voir cet homme, Seigneur, qui méprisait probablement ces gens, mais qui est prêt à aller là, à se donner pour eux, Seigneur. Et voir ton esprit qui appuie cet effort puissamment. Ô daigne Esprit de Dieu, daigne, Seigneur, venir appuyer nos efforts. Viens te manifester. Viens te manifester en convainquant des gens de péché, Seigneur. Viens te manifester comme tu le désires dans leur vie, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire et ta puissance. Je ne veux pas te limiter, Seigneur. Seigneur, enseigne-nous à être des bons samaritains, à renoncer à nous-mêmes, nous charger de notre croix et te suivre, Seigneur Jésus, pour le salut des âmes. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.